dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre, et cet épisode va faire la part belle à un blogueur que j'aime beaucoup, qui parle des logiciels libres depuis longtemps. Il s'appelle Philippe Scofoni. Salut Philippe.
Salut Stéphane, merci de me recevoir chez toi.
Ah ben, on est toujours bienvenu sur Monnaie Libre pour parler en liberté de l'économie, de la monnaie, et puis aussi des logiciels libres, parce que ça nous intéresse bien sûr au premier chef. Alors Philippe Scofoni, alors évidemment Philippe, tu tiens un blog, on va l'appeler, on va lui donner son nom tout de suite, c'est philippe.scofoni avec deux
F.net. Deux F, O, N, I, voilà, ouais.
Voilà, on mettra l'adresse évidemment à côté du podcast.
Ok.
Alors ce blog, tu le tiens depuis pas mal de temps maintenant, depuis
ouais,
presque...
Ouais, ça doit faire, j'ai fini par oublier, mais bon, le temps passe vite. Bah, ça doit faire 2-3 ans, on va dire, à peu près... Il existe maintenant, voilà.
D'accord, à peu près 2010, quoi,
2009-2010. Ouais, à peu près, ouais.
Voilà. Alors, on va rappeler qui tu es quand même, parce que t'es pas tout à fait n'importe qui dans le logiciel, puisque tu t'y connais. Tu as été directeur des services informatiques. Alors, c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas, je peux le dire un peu.
Pas, ben, en gros, c'est la personne qui, on va dire, dans une entreprise, va s'occuper d'une manière générale ben, de tous les outils informatiques. Hein, et bon, maintenant, dans les entreprises, il y en a quand même... La plupart du temps, beaucoup, voilà, donc c'est un travail qui se fait en relation étroite quand même avec les dirigeants, hein, parce que l'informatique, elle n'est pas là pour juste être de l'informatique, hein, faut qu'elle serve à quelque chose dans l'entreprise, donc il faut qu'elle serve les objectifs de l'entreprise. Voilà, donc le directeur des systèmes d'information, le responsable informatique, son job c'est ça, c'est de faire une informatique qui va répondre aux besoins de l'utilisateur. Voilà, il n'est pas là pour se faire plaisir.
Ouais.
Et
puis c'est quand même le chef aussi, hein, au niveau de l'informatique, on peut le dire, hein, c'est lui quand même qui va donner les grandes directions, hein, de quoi on peut s'équiper ou pas sur les postes de travail.
Voilà, voilà, on va donner effectivement les grandes directions, bah, il faut aussi être là pour amener des idées nouvelles, parce que par rapport aux outils, ça bouge quand même tout le temps, donc il peut y avoir des choses pertinentes pour l'entreprise, hein, et puis bah, organiser le bon fonctionnement, hein, il y a quand même toute cette partie-là, le bon fonctionnement de l'informatique, que les serveurs ne tombent pas en panne, que quand la souris du PC ne marche plus, ben, on vous en amène une autre, etc., etc.
Donc c'est aussi toute la gestion justement économique de l'informatique au sein de l'entreprise.
Voilà, hein, la partie pas... budgétaire, hein, qui est souvent pas négligeable. Hein,
ouais.
Voilà.
D'accord. Alors,
bon, la téléphonie aussi qui est rattachée souvent.
Oui, alors maintenant d'ailleurs, oui, la téléphonie est de plus en plus comprise comme étant... elle aurait dû l'être depuis le début d'ailleurs, mais comme étant un service informatique comme un autre, finalement c'est que des données, hein, finalement. Alors c'est un flux de données. Alors et puis alors, dans ton histoire de directeur de service informatique, tu as compris tout l'intérêt des logiciels libres au fur et à mesure qu'ils se déployaient dans l'économie au sens large, et ça t'a amené donc à essayer de prendre un peu ta liberté toi-même, hein, on peut dire ça,
ouais. Les logiciels libres, moi, enfin, quelque part, pour moi, c'est quelque chose de récent. Bon, les logiciels libres, ça existe depuis déjà pas mal, hein, de temps, hein, depuis les années 80, on va dire. Moi, ça date, ma découverte des logiciels libres, elle date de 2003. Je me souviens bien de la date. Et à l'époque, effectivement, je cherchais un outil. Le patron m'avait dit, je voudrais un outil pour faire un intranet, donc un site web pour l'interne, pour communiquer en interne dans l'entreprise. Et j'avais cherché des solutions, et puis j'avais trouvé un logiciel qui s'appelait SPIP. Ça parlera à ceux qui connaissent un peu les logiciels de gestion de contenu, les logiciels pour faire des sites web. C'était un logiciel libre. Voilà.
Ouais, c'est, alors SPIP, ça voilà. fait partie des grands, ce qu'on appelle CMS, Content Management System.
Voilà.
Et à côté d'autres libres, on peut parler de Joomla, sans doute.
Il y a Joomla, WordPress, Drupal, hein, pour citer les plus célèbres.
Ouais.
Donc en fait, tout est parti de là, de fil en aiguille. Bon, au début, voilà, c'est un intérêt technicien, on va dire, hein, au départ. Puis après, quand même, tu sais, c'est quand même bizarre, le logiciel libre, c'est quoi? On regarde, tiens, c'est quoi? Il y a quatre libertés, machin, etc. Puis bon, de fil en aiguille, on se met en utiliser. Bon, j'en ai utilisé au boulot. Et puis après, pour la maison, c'est quand même bien pratique sur certains aspects. On n'est pas embêté avec des problèmes de licence, etc.
Ouais.
Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. Et puis effectivement... À un moment donné, je faisais quand même beaucoup de veilles, de lectures autour de ça. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de partager ces lectures, ces veilles sur un site web perso. Voilà, et c'est comme ça qu'est né mon site un peu 2009-2010, quoi.
Alors, il faut absolument le voir, je le dis ça pour les auditeurs, hein, ce site, parce qu'alors, il y a énormément d'articles, beaucoup, puis alors depuis 3 ans, Philippe, t'es très prolixe, hein, tu en produis beaucoup.
Oh, il doit y en avoir un peu plus de 700, je crois,
Ouais,
à peu près.
donc c'est, ouais, et sur un peu tous les sujets. Donc, si on veut s'y connaître en logiciel et en particulier en logiciel libre, c'est vraiment un des blogs phares en France qui est vraiment extrêmement bien tenu. Alors, l'aventure n'est pas que personnelle, puisque tu as
Non.
rejoint un site communautaire aussi très intéressant, très, très sympa, que je consulte aussi depuis quelques années, et qui est vraiment chouette, qui s'appelle planète-libre.org.
Voilà, dont tu es même devenu membre récemment.
Oui. Alors, mais je crois que c'est pas contraignant d'être membre, il suffit de
Ah
proposer.
non,
D'ailleurs,
bon,
ouais.
il suffit de partager son contenu, c'est le principe. Voilà, le Planète Libre, effectivement, c'est un site qui réunit à peu près un peu plus de 200 blogueurs qui traitent, on va dire, de la thématique du libre, hein,
Ouais.
aujourd'hui. Bon, je suis un des administrateurs et une équipe de 6-7 personnes derrière, hein, je suis pas tout seul, qui font tourner tout ça, hein, bon, c'est totalement bénévole, hein, et qui, voilà, donc si vous voulez, hein, avoir un site avec qui regroupe pas tout ce qui s'écrit sur le libre, hein, mais on va dire déjà une bonne partie, vous pouvez vous abonner à ce site-là, Planète Libre, ça vous renverra vers, ça vous permettra de découvrir effectivement plein de sites qui parlent du libre.
Oui, puis il
On va élargir un peu la thématique, hein. C'est
y a
pour ça
une...
que maintenant il y a des. Voilà, on accepte effectivement des sites qui parlent de la monnaie libre. Voilà.
Ouais, tout d'abord, ouais, par
Première
exemple, ouais.
révolution, hein.
Voilà, ouais.
Voilà, donc bah, c'est vrai que l'associatif dans le monde du logiciel libre, c'est quand même vachement important. Donc voilà, donc ça fait partie de mes entre guillemets contributions au monde du libre.
Alors à noter évidemment que ce soit sur ton blog ou sur ce Planète Libre, que tous les articles sont eux-mêmes sous licence libre. Alors c'est pas libre au sens du logiciel, là c'est libre au sens de la publication texte, image, ce genre de choses.
Ouais,
Donc c'est sous
voilà, donc
Creative Commons la plupart du temps en fait, hein.
c'est Creative Commons by, j'ai pris la plus simple, la moins contraignante, hein, donc n'importe qui peut reproduire mes articles du moment qu'il me cite, et
Ouais.
voilà, c'est la seule contrainte de actuelle, quoi.
Ouais, donc c'est une contrainte vraiment minimale, difficile de faire moins. Alors, très bien, donc on a vu ça. Alors voilà, on va arriver maintenant à notre deuxième partie. Là, on a fait un peu le tour de ton parcours. Peut-être on peut finir par un... Oui, tu as aussi participé avant de passer à la suite, mais ça nous donnera une bonne transition, à un salon semi-pro ou pro autour de
Oui, alors,
Linux.
ouais, effectivement, l'année dernière, j'ai couvert avec une association intellienne, bon, une association d'entreprise, au travers d'une web TV, des salons sur le logiciel libre open source, notamment Solution Linux, bon, qui est un peu le salon qui. Enfin, un salon sympa parce qu'il réunit quand même à la fois les entreprises et le monde associatif, c'est le seul dans l'année, hein, qui est de ce type-là. Après, il y a des événements, mais bon, on va dire, c'est soit. Le monde communautaire tout seul, soit le monde de l'entreprise tout seul. Donc c'est moins. Voilà.
D'accord.
Effectivement, j'animais des plateaux TV où bon, c'est un certain interviews. Voilà, de gens qui étaient présents sur le salon.
D'accord. Donc on va maintenant on va pouvoir passer au cœur de notre émission aujourd'hui, puisqu'on va parler d'économie, et bien sûr on finira aussi par la monnaie, puisque ça c'est évidemment le cœur de notre approche ici. Mais on va d'abord parler d'économie. Alors moi, j'ai tenu à faire cette émission avec toi depuis. Alors d'abord, j'y pensais depuis longtemps, puisque je savais que tu t'intéressais au sujet économique et monétaire, puisqu'on avait déjà fait d'ailleurs
On a déjà fait des articles communs, on va
on a fait
dire.
l'article commun, on a fait un petit son commun aussi qui traîne quelque part sur Internet sur les problèmes de monnaie aussi. Mais tu as fait un article très récent qui remet l'accent là-dessus, qui s'appelle Le don, ça eût payé. Donc on peut le trouver sur ton blog. Vous tapez recherche le don sur le blog de Philippe Scophonie. Donc Le don, ça eût payé, où justement tu fais une analyse critique très intéressante. En passant, d'ailleurs, tu démarres sur l'histoire du pack Liberté qui a été mis en place par l'April et Framasoft, une sorte de contribution au don contre rien d'ailleurs, mais il y avait un pack Liberté pour la forme, une espèce
Voilà, ils avaient fait un pack Liberté, effectivement, où en fait on donnait et puis on mettait des curseurs pour dire sur la somme, je donne tant à l'April, c'était l'April, Framasoft et Quadrature du Net, donc
Ouais.
les trois associations qui étaient destinataires de ce don. Voilà, bon, ils avaient appelé ça un pack liberté avec une histoire de charme autour. Enfin,
Voilà. Alors tu fais l'analyse au sens global de la problématique de dons. C'est-à-dire tu t'arrêtes pas là. C'est évident, tout le monde a envie que les dons fonctionnent pour soi. Mais évidemment, quand on réfléchit globalement, on se dit, mais comment une économie pourrait fonctionner sur ce type de fonctionnement-là? Et notamment, justement, dans ton analyse, tu poursuis, je ne vais pas faire tout l'article, c'est pas le but, il sert d'introduction, mais tu arrives à dire, le don traditionnel ne marchera plus. Le système privateur, le système monétaire privateur, et alors ça nous fait bien plaisir de voir ça, le système monétaire privateur a fait son œuvre. Les poches des particuliers sont vides et ne se rempliront pas par magie demain. Donc voilà, alors une analyse forte parce que sur cet acte économique là qui est l'essence même justement du développement de la démarche associative et de la démarche des logiciels libres aussi,
Ah,
où le
c'est
don
mis
est.
aujourd'hui en avant beaucoup par beaucoup d'acteurs du logiciel libre, mais c'est pas nouveau, hein.
Oui, oui.
Le don, le don, le don, on a eu Flutter, enfin on a eu
Oui.
des initiatives qui sont apparues comme ça,
Oui.
mais on se rend compte que de toute façon ça n'a vraiment ça n'a pas vraiment un jour marché. De toute façon, pour le peu que ça marchait, ça marche de moins en moins.
Et tu fais le lien, et c'est ça qui nous intéresse, avec le système monétaire privateur. Alors justement, donc c'est là où tu vas pouvoir développer un peu ton approche avec ton expérience. On a eu bien sûr l'histoire du logiciel libre qui est devenu un peu logiciel open source. Les entreprises ont essayé de s'approprier le concept pour lui changer le nom. Ils ont changé le nom, mais ils ont changé aussi ses caractéristiques un peu. Ils ont essayé d'en faire pour essayer d'en faire du business. On a une problématique, voilà, d'essayer d'en faire une économie avec une vraie valeur qui se développe chez Lim, mais qui ne génère pas de revenus pour ses créateurs. Et dans ton analyse, tu arrives à cette conclusion, le système monétaire privateur a fait son œuvre. Les poches sont vides. Alors voilà, donc comment tu peux développer ça,
Comment on
quoi?
arrive à ça,
Voilà.
hein? Ah, le chemin est long, hein.
Oui.
Bon, il faut remonter un peu. Alors, c'est vrai que le logiciel libre, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce que bon, quand on remonte l'histoire du logiciel, hein, le logiciel tout à l'origine, il était libre. D'accord? Les premiers logiciels, quand on achetait une machine dans les années 60, on avait le code source de la machine avec, hein. Parce que de toute façon, la machine coûtait tellement cher que bon, les constructeurs donnaient le code source et puis le code source circulait. Ça a été le cas jusque dans les années 80, où des gens sont arrivés et ont commencé à dire, bon, là, le code source, on va arrêter de le faire circuler. L'ordinateur individuel est arrivé et là, on a vu apparaître les logiciels sous licence, hein, c'est-à-dire qu'il fallait payer. Il fallait payer pour avoir le droit d'utiliser un logiciel. Hein. Donc, j'achetais pas le logiciel, j'achetais juste le droit de l'utiliser. Donc, ça a été tout le modèle économique des années 80 qui a été développé par Microsoft. Donc, finalement, un modèle économique proche de l'édition du livre. Hein. Bon, sauf qu'un livre, une fois qu'on l'a lu, si l'auteur il veut publier de nouveaux livres, faut qu'il en écrive un nouveau. Bon. De l'édition logicielle, on va faire quelques petits changements et puis on va revendre à une nouvelle version du logiciel, hein, en
Oui.
disant qu'elle est tellement mieux que la précédente qui était toute buggée, mais là il n'y a plus de bugs, donc nous en vend une nouvelle et vous allez repayer, etc. Et puis ben, on paye comme ça tous les. Donc ça c'est effectivement le modèle du logiciel propriétaire qui s'y met en place et. Parce que on est dans une économie où le principe économique, c'est de créer de la rareté. Voilà, et sur la base de cette rareté, je vais me générer des revenus. Alors le problème du logiciel libre, c'est que c'est le père Stallman, Richard Stallman, qui l'a formalisé avec sa licence qui est bien particulière, hein, parce que le logiciel libre, c'est pas. T'es libre de faire n'importe quoi, il y a une licence, il y a des droits à respecter, il y a des choses qu'on peut faire et ne pas faire. Il a créé un peu il a créé un problème, et c'était son objectif clair, d'avoir quelque chose qu'on pouvait donner, distribuer, copier, modifier, sans contrainte. Donc là, effectivement, le modèle de la rareté, il s'écroule.
Oui,
Je peux
c'est.
diffuser, je peux distribuer. Bon, plus de rareté, aïe. Donc effectivement, on pouvait se dire, il est fou, c'est ce que pensaient les gens à l'époque, hein. C'est un fou, il va tuer le logiciel, plus personne va arriver à vivre, c'est la fin du monde, etc. Donc, en fait, la réponse à ça, c'est simplement que, quelque part, cette rareté, on l'a déplacée. Elle n'est plus dans le logiciel, elle va être, et c'est peut-être un gain, elle va se déplacer en fait un peu plus du côté de l'humain, puisqu'en fait la rareté, ça va devenir la compétence. Ça va devenir le gars qui est capable d'installer le logiciel, de le faire marcher, de corriger les bugs qui sont dedans. Donc on va avoir autour du logiciel libre en fait une économie dite de service, hein, qui va se développer. Hein. Je crois la première boîte qui vendait des services autour de logiciel libre, elle est apparue en 89, donc c'est quand même pas quelque chose de très vieux. Voilà, elle vendait du support, hein, c'est-à-dire vous avez un problème avec un logiciel libre, bah je vais vous aider à le résoudre, je vais corriger le bug éventuellement. Hein, et ça, c'est le modèle de base, entre guillemets, qui s'est imposé autour du logiciel libre. Donc, voilà, donc c'est une autre forme, la rareté s'est un peu déplacée, elle s'est déplacée du côté de l'humain. Bon, et effectivement, c'était un recentrage, on va dire, un peu plus. Qu'on peut qualifier quand même de bénéfique quelque part.
Oui, parce
Et
que c'est quand même
aujourd'hui,
l'homme
c'est vrai que dans les.
qui reprend finalement possession de l'essence même de tout ce qui est valeur. C'est-à-dire c'est lui qui est
Voilà.
producteur, et c'est pas l'objet lui-même qui a de la valeur, mais c'est bien l'homme en fait. C'est
Voilà.
celui qui
Voilà.
produit. Voilà.
Effectivement, et ça, c'est flagrant quand on regarde, il y a quand on compare certains ratios d'entreprises comme Microsoft avec des entreprises. Du logiciel libre ou open source, en fait, on se rend compte quoi que Microsoft, par rapport à la quantité, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle génère et au nombre de personnes qu'elle emploie, il y a un ratio qui est extrêmement faible. En fait, elle emploie peu de personnes par rapport au chiffre d'affaires qu'elle fait, contrairement aux sociétés qui font du logiciel libre ou de l'open source, qui, elles, vont avoir un ratio beaucoup, beaucoup plus élevé, parce que, tout simplement, ce qu'elles vendent, la plupart du temps, c'est du temps homme. Donc effectivement, d'une certaine manière, le logiciel libre a créé une économie qui permet, je dirais, à l'humain de se réapproprier, entre guillemets, de voir la valeur se recentrer sur lui. Et dans beaucoup de boîtes, dans des boîtes comme Red Hat, hein, qui est un éditeur de systèmes d'exploitation, donc open source, très clairement pour eux, quand ils rachètent des sociétés ou quand ils font des achats, le patron disait, moi je regarde pas la valeur de la société, je regarde les gens qui sont dedans. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement le logiciel libre open source, c'est un changement de paradigme déjà économiquement par rapport à partir de quoi je vais créer de la valeur. Donc ça c'était déjà un point, on va dire, important.
D'accord. Et
Alors.
alors après, comment cette histoire de don aussi s'insère dans cette mécanique?
Alors. Après, effectivement, le logiciel libre, quand on reprend historiquement les choses, ça a été créé par des hackers, par des gens, des chercheurs, hein, des bénévoles. Donc, d'une manière globale, le logiciel libre, la première phase de démarrage du logiciel libre, elle s'est faite, pour ainsi dire, hein, quasiment sur la base du bénévolat. C'est-à-dire que c'est des gens qui, ben, allaient développer un bout de code et puis l'assembler avec un autre. Et puis, il y en a eu de plus en plus, puis on arrivait à avoir des logiciels de plus en plus complexes. Donc, mais derrière, sans pour autant qu'il y ait une rémunération directe.
Oui, alors à noter
Voilà.
là-dessus que, comme dit Richard Stallman, libre signifie pas gratuit. Ça veut dire que ces développeurs seraient pas contre le fait d'être payés, mais ils veulent pas l'être en créant de la rareté sur leurs produits, parce qu'ils veulent un produit qui soit pas rare.
Voilà.
C'est là qu'est le paradoxe.
Voilà. Donc, effectivement, c'est le truc qui rend le système un peu particulier. Donc effectivement, par rapport à ça, la première idée qui vient, c'est de dire, on va demander aux gens, aux utilisateurs, parce qu'après tout, ceux qui vont pouvoir retirer un avantage de ces logiciels qu'on leur met à disposition sans contrepartie obligatoire, hein, c'est les utilisateurs. Donc effectivement, c'est de dire aux utilisateurs, écoutez, plutôt que de payer, de vous imposer de payer, on vous propose de donner, quand vous le voulez, le montant que vous voulez, selon vos moyens, etc. Donc, c'est ce que depuis de nombreuses années. Alors, quand on a des grosses entités qui portent des gros logiciels libres, hein, quand on est The Document Foundation, hein, qui fait le logiciel bureautique LibreOffice, on peut lancer des campagnes de dons. on va réussir à ramasser des sommes qui sont assez significatives. Et puis bon, faut pas oublier non plus que dans les contributeurs logiciels libres aussi, il y a des gens qui sont payés par des entreprises qui ont, elles, intérêt à ce que ce logiciel pour lequel elles payent quelqu'un se développe. Parce que derrière, à partir de ce logiciel-là, elles vont elles-mêmes vendre des services. Donc, dans le logiciel libre open source, on ne va pas dire qu'il n'y a que des bénévoles. C'est même, sur certains projets, ils sont même presque absents. On va avoir, c'est des entreprises qui vont payer des gens pour travailler pour développer ces logiciels derrière. Donc, à partir de là, le don, malgré tout, il continue d'exister, hein, pour les communautés purement bénévoles. Mais bon, on sait que globalement, c'est quelque chose qui rapporte extrêmement peu. Hein. Quand on se promène sur des sites, qu'on tombe sur des dons ou autres, on va voir des jauges de dons qui sont à 50, 100, 200 dollars, hein, par exemple, bon, qui sont des sommes, somme toute, dérisoires, quand derrière, on sait qu'il y a un bénévole qui, ou deux ou trois, qui passe l'équivalent de une ou deux journées ou 3 journées par semaine à développer.
Oui, mais oui.
Finalement, quelque part, la développer gratuitement. Or, ma position, c'est de dire que le logiciel libre ne devrait pas être gratuit. Ça, c'est un peu une des failles du système, c'est que voilà, on a l'impression que c'est gratuit, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et économiquement, il y a énormément de gens encore aujourd'hui, bah, qui n'ont pas de retour du travail qu'ils font. Même si ce travail, ça donne un logiciel qui est utilisé par des entreprises qui, elles, vont faire des profits avec.
Oui, alors on peut donner un exemple là-dessus. J'en avais déjà parlé aussi sur créationmonétaire.info. J'ai donné cet exemple et on peut le rappeler ici. C'est Android, bien sûr, parce que Android équipe beaucoup, beaucoup de smartphones désormais est à base de Linux.
Oui, il utilise
Alors,
effectivement le noyau Linux plus une surcouche en Java,
donc
ouais.
du coup,
Parce
bah, il se sert de logiciel libre. Donc lui, par contre, il va en profiter pour faire des bénéfices. Et alors que les développeurs de Linux n'en ont pas tous fait des bénéfices. Alors peut-être aujourd'hui il y a plus de gens
Ouais.
payés pour développer, mais les créateurs de Linux notamment, parmi les créateurs, alors, il y a Linus Torvalds, c'est le plus connu, alors peut-être c'est celui qui s'en sort le mieux, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément touché quoi que ce soit sur leur contribution.
Alors le cas d'Android, il est un peu particulier quand même, parce que c'est quand même un système d'exploitation, bon, effectivement, qui utilise le noyau Linux. Bon, Google contribue au noyau Linux, hein, c'est-à-dire qu'il a il paye des développeurs pour contribuer au noyau Linux, et puis après, il y a quand même la grosse partie d'Android qui n'est écrite que par Google quasiment, hein, même si c'est de l'open source. Donc bon, Android, c'est peut-être pas
C'est pas le
peut-être pas
meilleur
lui
exemple.
que j'aurais pris comme l'exemple le plus typique, hein. Des logiciels communaux. Un exemple, par exemple, c'est GIMP,
Ouais,
le
ouais.
logiciel de retouche d'image, hein. Je pense que enfin, tous ceux qui utilisent des logiciels libres et qui veulent un logiciel pour faire de la retouche d'image, du dessin, etc., connaissent ce GIMP, ou en tout cas doivent le connaître. C'est un logiciel, si je dis pas de bêtises, qui est quasiment porté par un développeur.
Ah oui.
Et derrière, on a des milliers et des milliers d'utilisateurs. C'est vrai que là, on est dans un cas où, effectivement, il y a certainement des entreprises qui font du graphisme, plein de graphistes, hein, qui vendent des prestations, etc. Mais il y a quasiment, il n'y a pas de retour. Donc, quelque part, le développeur de GIMP, il n'a pas de retour de cette création de richesse qu'il fait. Et le don derrière, bon, c'est pas ça qui le nourrit.
Ouais. Alors,
Donc,
comment ta
et pas des
réflexion?
projets comme ça, il y en a quand même beaucoup. Hein.
Ouais. Comment ta réflexion justement s'est mûrie sur ces aspects-là? Alors, à quoi tu as abouti? Comment tu as progressé dans ta progression? T'es parti d'où pour arriver jusqu'où aujourd'hui par rapport à ce problème-là?
Effectivement, bon, en partant de l'observation du fonctionnement du logiciel libre, on voit quand même qu'aujourd'hui il y a un problème. Donc on avait le logiciel libre, après il y a les marchands qui sont arrivés, qui ont dit votre truc là c'est super, bon on va l'appeler open source parce que free software, ça d'un point de vue marketing ça le fait pas. Donc ils sont arrivés. Aujourd'hui c'est eux quelque part, ce sont les marchands, ceux qui font de l'open source quelque part, qui génèrent, quand on parle Quand on dit qu'en France, le logiciel libre et l'open source représentent 2,5 milliards d'euros, hein, de chiffre d'affaires, en fait, c'est bien les marchands qui génèrent ces 2,5 milliards d'euros. Donc, c'est qui ces marchands? C'est des éditeurs de logiciels sous licence libre ou open source, et c'est des sociétés de services en logiciel libre. C'est les deux principaux acteurs économiques qui vont générer de l'argent. Le problème aujourd'hui de ces acteurs économiques, c'est que, en fait, ils contribuent assez peu aux souches logicielles qu'ils vont utiliser pour générer de la valeur. Donc, en fait, si on faisait un schéma, hein, où on mettrait des communautés de logiciels libres, les intégrateurs et les éditeurs, on verrait que les flux monétaires, en fait, et le client, on ne va pas oublier le client, hein, le flux monétaire, il circule énormément entre le client, l'intégrateur, l'éditeur, entre ces acteurs-là, mais il remonte quasiment pas aujourd'hui vers les communautés.
Ouais.
Alors, au mieux, il y a du code qui remonte, au mieux. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc, en fait, on a un système qui utilise le travail de communautés avec des gens qui sont pas forcément tous rémunérés, hein, qui sert à générer de la valeur, mais dont ils ne reçoivent jamais aucun retour. Donc ça pose quand même effectivement le problème quelque part de dire c'est cette création de richesse qui se fait, elle se répartit pas.
Elle se répartit pas, j'ai envie de te dire, Philippe, elle se répartit pas non seulement aujourd'hui, mais elle se répartit pas depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas de dire aujourd'hui on va trouver une solution pour que ça se répartisse en se disant mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont rien reçu depuis 30 ans?
Non. Voilà, donc c'est clair que ce n'est pas une situation qui est nouvelle. Et effectivement, le don, quand on dit l'économie du don, etc., aujourd'hui elle existe, pas vraiment. Et puis effectivement, elle s'assèche parce que on voit bien que, mais là c'est après on sort de la problématique de l'économie du logiciel libre, hein. Après il faut ouvrir plus large, hein. C'est effectivement un système économique où on sait que l'argent actuellement il fuit vers les mêmes points, d'accord, il est aspiré petit à petit, et et de fait le don, les gens ont de moins en moins, de façon logique, vont avoir de moins en moins d'argent à donner, donc quelque part c'est un système, s'il perdure, potentiellement il va tuer le logiciel libre.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là tu en arrives à cette notion de système monétaire privateur. Est-ce que. Alors c'est un peu là, moi j'ai fait cette image souvent, je sais pas, tu vas me donner ton avis, mais finalement quand on fait le logiciel libre au départ, on peut le faire sous Windows, on va développer GIMP par exemple sous Windows, pourquoi pas, mais enfin, on a envie de développer un logiciel libre sur un système libre, donc on a envie de le faire plutôt sur GNU Linux. Et alors de la même façon, est-ce qu'une économie basée sur des produits libres d'utilisation, c'est-à-dire sans rétention d'informations, sans rétention de la possibilité de partager, de diffuser, etc., est-ce que cette économie-là est compatible avec un système monétaire qui, lui, fonctionne à contrairement, c'est-à-dire finalement le système d'exploitation de l'économie, lui, n'est pas libre?
Non, et c'est bien là le risque pour le logiciel libre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour moi, le logiciel libre, il n'est pas placé dans un système économique qui lui correspond, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique parce que j'avais vu une conférence avec Stallman et on lui avait posé la question du modèle économique pour le logiciel libre. Et c'est une question à laquelle il ne répond jamais, mais je pense que c'est volontaire. Parce que le problème, c'est qu'il sait bien qu'il a mis quelque chose en place dans un système qui est complètement, et c'est un hacker, hein, donc son but c'est de casser, de démonter pour que on puisse remonter autrement le système, hein, donc il a introduit dans un système qu'il ne pensait pas bon quelque chose pour le perturber et essayer de le tirer vers autre chose, hein. Donc effectivement le logiciel libre pour moi s'inscrit pas de façon naturelle dans le système économique. Et c'est ce qui me pousse souvent à écrire. J'ai écrit des articles comme ça pour dire que l'open source va très bien, puisque lui, l'open source a été fait par des marchands, donc qui ont développé tout un tas de stratégies pour développer de la rareté. Et en faisant ça, quelque part, il y a des stratégies d'enfermement des utilisateurs, hein. Tout ce qui est, je dirais, service en ligne, c'est quand même bâti avec de l'open source.
Oui.
Facebook, Twitter, Google, enfin, tous les grands services qu'on pourrait qualifier de privateurs aussi, sont construits sur l'open source, ce qui est quand même un grand paradoxe en fait. C'est qu'on a quelque chose qui devait libérer les gens, et les marchands ont trouvé le moyen de l'utiliser pour les enfermer.
Oui, alors ça,
Donc,
mais ça, est-ce que c'est pas
et
dû
les
au.
marchands, eux, s'inscrivent
Ouais.
pleinement dans l'économie et dans le système
Ouais.
économique tel qu'il existe.
Eh oui.
Donc le problème, c'est que si ça continue, on va se retrouver en fait, il va nous rester que l'open source, on n'aura rien gagné.
Oui, bien
D'où
sûr.
l'intérêt, effectivement, de se poser la question du système monétaire et de sa remise en question, en tout cas dans son mode de fonctionnement et surtout dans la façon dont la création de valeur, donc la création de richesse, va se répartir, hein. On en revient à tes théories des théories relatives à la monnaie avec le dividende, avec les notions de dividende universel, de revenu de base. C'est clair que si on vivait aujourd'hui dans un système économique où tout le monde avait un revenu de base, basé sur un dividende universel, le logiciel libre pourrait pleinement se développer.
Ouais. Oui, mais
Parce
comme
que,
tu
bah,
disais,
simplement.
effectivement,
Pardon?
Richard Stallman en parle peu. Et alors, j'ai eu l'occasion, tu le sais, de faire une conférence avec lui à Genève. Il a quand même dit qu'il était plutôt favorable à une économie où la monnaie serait en partie donc à dividende universel. Mais effectivement, il va éviter de faire le lien. Il veut pas faire le lien parce que, en plus, bon, mais je pense que tout simplement, il préfère se concentrer sur sa spécialité et ne pas trop déborder. Quoique des fois, il le fait parce que quand il dit qu'il voudrait rémunérer les artistes selon la racine cubique de je sais pas quoi,
Oui,
là,
bah
là il déborde. Hein, et puis, à mon avis, il déborde pas forcément bien.
Ouais, non, mais c'est. Mais bon, d'un autre côté, c'est dommage aussi que les deux problématiques soient pas liées entre elles de façon plus visible, parce que
Ouais.
je pense que le revenu de base et dividende universel, c'est la façon, entre guillemets, claire de régler le problème de la contribution. J'ai envie de faire un logiciel libre. Eh ben j'y vais, j'ai mon revenu de base. Quelque part, je vais contribuer à la création de valeur dans la société dans laquelle je vis.
Ouais.
Et je sais que je vais en retoucher forcément via au travers du revenu de base, je vais en retoucher moi-même les bénéfices,
Ouais,
puisque je vais
au moins
contribuer à
une partie en tout
l'amélioration.
cas, au moins une partie.
Oui. Voilà, on a quand même un je sais pas, oui, sinon, une partie, mais c'est-à-dire quelque part, on a un retour qui se fait.
Ouais, ou un
Alors
équilibre.
qu'aujourd'hui, il ne se fait pas, et la seule façon dont il peut se faire, c'est au travers du don. Mais voilà, mais le don dans notre système monétaire actuel, il est en train de s'assécher.
Oui, alors c'est là qu'on arrive effectivement à la notion de le crowdfunding dont on a parlé beaucoup, c'est la possibilité de lever des fonds auprès de plein de personnes différentes pour remplacer le fait que ce système monétaire de financement marchote mal, quoi, parce qu'il va donner beaucoup d'argent à certains acteurs pour leur permettre de faire des gros développements et créer des monopoles de fait. Amazon, Facebook, Twitter, Google ont été créés avant tout, il faut quand même le rappeler, parce qu'il faut bien faire comprendre ça. Avec un afflux initial d'argent phénoménal avant même que les premières lignes de code aient vraiment été faites. Ou alors que même que des lignes, très peu de lignes de code étaient faites. Bon.
De toute façon, sur les startups du web, on a bien vu, enfin là, un des
Ouais.
critères de jugement d'une bonne startup, c'est son cash burning, hein, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle crame l'argent qu'on lui
Ouais.
donne, hein.
Voilà. Alors le problème de ça,
Plus
c'est
il
que
était
ça.
élevé, plus c'était bien. Hein.
Ça, ouais, voilà, ça distribue. Alors c'est souvent, alors bien sûr, si c'était de l'épargne, ça irait, mais c'est pas que de l'épargne. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'effets de levier dans ces histoires-là. C'est-à-dire qu'il y a des créations monétaires induites, soit directement, soit indirectement, avec des fonds à effet de levier. Et du coup, c'est des acteurs qui sont arbitrairement privilégiés par rapport à d'autres. Faut
Oui,
bien
puisque ça
comprendre
va être
ça dans cette
effectivement tout basé
mécanique.
sur du financement
Ouais.
avec de la dette.
Donc ça crée mécaniquement aussi des centres de développement rapide au détriment des autres. C'est-à-dire évidemment, quand on va aller plus vite que les autres, c'est pas forcément mauvais en soi, mais quand on le fait en trichant en quelque sorte, en se donnant plus de moyens qu'aux autres de façon arbitraire, on peut se poser la question. Alors moi, j'en viens du coup maintenant à la troisième partie qui va sans doute être après ce qu'on a vu, je pense d'abord, c'est vraiment la partie qui s'impose, mais aussi la plus intéressante pour nous. C'est ton analyse maintenant sur justement le design des systèmes monétaires. Alors moi, je suis un peu étonné, je vais faire ça en introduction, enfin étonné, non, je suis pas totalement étonné, disons, mais je suis un peu impatient, on va dire, plutôt qu'étonné, devant le fait que les communautés de logiciels libres ont commencé à prendre conscience qu'on pouvait designer d'autres types de systèmes monétaires, ne serait-ce que par le buzz qu'a fait Bitcoin, bien sûr. Qui a eu son heure de gloire, qui continue son petit bonhomme de chemin, avec ou pas des acteurs qui en parlent. Moi, j'ai parlé pourquoi ce design-là ne me convenait pas, je l'ai dit plein de fois. Alors, Bitcoin est basé sur un logiciel libre d'ailleurs, et on voit bien par contre que la monnaie qu'il y a derrière a des caractéristiques dont on peut se poser la question. Est-ce que c'est des caractéristiques qui donnent des libertés à l'utilisateur de la monnaie ou pas? Et ça, c'est indépendant du fait qu'elle soit faite ou pas sous le logiciel libre, cette monnaie. C'est-à-dire, il y a deux choses. De la même façon que je peux utiliser GIMP pour créer des images qui ne soient pas libres. Hein,
Tout à fait,
j'ai le
ouais.
droit
Avec
d'utiliser
des
GIMP,
outils, oui.
voilà, je peux utiliser GIMP pour faire des images sous copyright et elles sont pas libres. De la même façon, je peux créer un logiciel libre qui crée un système monétaire qui n'aura pas des caractéristiques de liberté qui restent à définir. Bon, moi j'ai donné mon avis là-dessus, je pense que j'ai été assez précis et on pourra le lire dessus. Mais bon, voilà, donc il y a eu cette possibilité de Bitcoin, il y a eu d'autres essais qui sont en cours, il y a OpenUDC qui est toujours en développement et qui avance bien, là on approche de la version 0.3 et on peut s'étonner. Que ce soit en France ou ailleurs, qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience, et notamment dans le monde du logiciel libre, de cette nécessité d'avoir aussi la main sur sa monnaie, puisqu'elle a la main sur ce système d'exploitation, elle a la main maintenant sur ses logiciels, et elle se dit, ben, ça, j'arrive pas à gagner des sous, mais elle ne se pose pas la question de la monnaie. En attendant la réponse de Philippe Scofoni, on va faire une petite pause et écouter épisode de Triade en licence libre. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Voilà, donc c'était épisode de Triade et on retrouve tout de suite Monnaie libre avec la réponse de Philippe Scofoni.
Non, et c'est vrai que c'est un grand paradoxe. Moi, je suis toujours étonné quand je vois l'évolution de certains projets libres. Bon, des gens qui, un jour, ils décident de faire un logiciel, le logiciel rencontre du succès, il répond à un vrai besoin, et puis ils se disent, bon, là, effectivement, arrive le moment où on se pose la question, maintenant, il faudrait que je gagne ma vie avec. Et la plupart du temps, le réflexe, c'est quoi? C'est je vais créer une société, une start-up. Donc, on a beaucoup, on a le, enfin, voilà, donc il y a entre guillemets, les gens restent dans le schéma traditionnel,
Oui.
même s'ils font du logiciel libre, ils restent ancrés à 90% dans des schémas traditionnels. Ah bah je vais créer une boîte et puis gnagnagna. Bon, sans penser qu'en faisant ça, ils sont en train potentiellement de tuer ce qu'ils sont en train de développer.
Oui.
De toute façon, ils vont inscrire ce qu'ils sont en train de faire dans un système qui, de toute façon, est contradictoire avec ce qu'ils font. Et
Oui.
c'est vrai que c'est un problème quasi culturel, hein. Et c'est vrai que le logiciel libre ne parle que de logiciel. D'accord? Et il n'y a pas d'ouverture dans aux problématiques effectivement je dirais monétaire. Hein. Mais ça c'est un problème qui dépasse, je dirais même les gens du logiciel libre. Hein. C'est un problème
Mais
général. Hein.
y a eu quand même des choses, parce qu'il y a Bitcoin, mais il y a eu aussi à un moment donné, moi je m'étais intéressé à un autre logiciel qui s'appelle Cyclos,
Ouais.
qui est aussi un système, un logiciel libre. Bon, alors il est déplaisant parce qu'il est basé sur Java en partie, donc on sait bien que le Java c'est un peu pénible. Mais il y a eu des essais quand même, mais ça c'est pas très poussé, comme s'il y avait eu un manque d'analyse sur la nature du code nécessaire pour faire une monnaie qui fonctionne.
Oui. Ah, le problème, c'est que les gens qui font le logiciel libre, la plupart, la grande majorité, ce sont des informaticiens, on va dire. Alors après, ça ne veut pas dire que l'informaticien n'est pas forcément éveillé à d'autres problèmes que l'informatique, mais il reste quand même très centré sur le code. Le logiciel libre, c'est le code.
Ouais.
Le problème, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas chercher plus loin que le code. Ça s'arrête là, quoi. Donc effectivement, il y en a quelques-uns. Qui se pose la question de ben, comment on va faire pour gagner de l'argent un peu autrement, mais sans remettre en cause, encore une fois, le système existant, ni même chercher à mettre en place des choses qui pourraient, entre guillemets, le détourner ou introduire un biais voilà, essayer de faire les choses un petit peu autrement, entre guillemets. Ça reste quand même, moi, c'est un truc qui me frappe, enfin, qui est clair, hein. On reste très ancré dans le système économique traditionnel, hein. Même si effectivement il y a eu des projets, hein, ça reste autour donc soit du don, du micro-don. Encore il y a 3 semaines, je discutais avec un développeur, enfin un gars qui et il va lancer sa start-up pour faire un produit un service en ligne pour le micro-don.
Oui, comme flatteur en fait. C'est...
Un flatteur, oui, alors
Ouais.
bon, il va m'expliquer ce qu'il veut faire, mais bon, la première chose, je lui dis, mais arrête, ça sert à rien. T'es en train de créer encore la énième machine qui servira à rien, quoi. Donc, voilà, donc effectivement, il y a des prises de conscience avec des logiciels comme Bitcoin, mais bon, derrière, effectivement, le code sous-jacent de la monnaie qui va être générée, bah, il n'est pas libre, entre guillemets, ou en tout cas, il favorise pas la liberté des individus, il favorise quelques-uns. C'est vrai que là, enfin, on est dans un problème, bon, mais qui pour moi dépasse la nature du logiciel libre, mais c'est vrai que les gens du logiciel libre devraient en être d'autant plus conscients que le système monétaire actuel n'est pas favorable à ce qu'ils essayent de développer.
Mais pourtant, quand tu dis que ça dépasse, moi j'ai pas l'impression que ça dépasse. C'est-à-dire parce que ça dépasse. Peut-être parce que le sujet est grand, au sens dans l'espace et dans le temps, le sujet de la monnaie est énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère l'euro aujourd'hui, bon, bah, ça concerne 300 millions de personnes. C'est pas prêt de partir demain.
Ah ouais.
Mais quand on réfléchit finalement, quand on va faire une partie de Monopoly, par exemple, on peut analyser le fonctionnement du jeu. Tout le monde arrive à apprendre les règles du Monopoly. Et on fait avec un Monopoly une mini-économie, qui a tous les défauts qu'on veut, bien sûr. Mais ça reste une mini-économie avec une monnaie qui fonctionne selon un code particulier, qu'on peut critiquer ou pas, peu importe. Mais on arrive à analyser ces règles assez vite et on peut très vite se dire qu'on peut créer d'autres règles. C'est étonnant que finalement. Bon, enfin, ceci dit, on ne peut pas dire que l'analyse n'ait pas été faite. Il y a eu des analyses sur les codes de la monnaie. Elles sont là, elles existent, mais elles ne sont pas encore. La prise de conscience, comme tu dis, est peut-être pas là. C'est-à-dire que la question de savoir, mais finalement, je vais lancer une start-up pour faire du microdon ou faire des logiciels libres, etc., sans me poser la question de savoir, mais est-ce que c'est libre de se faire payer en euros plutôt que dans une monnaie qui a telle ou telle caractéristique, c'est étonnant que cette question se pose pas ou ne soit pas un peu plus prise comme quelque chose de sérieux et de prioritaire. Alors, surtout depuis 2008, quand on vit. Les dernières extrémités d'une longue crise financière qui dure depuis presque 20 ans ou 30 ans, et où une quantité croissante de personnes commence à s'intéresser de très près justement à la façon dont ce système monétaire qui nous envahit du mauvais ou qui nous presse de tous les côtés, comment il fonctionne. Il y a quand même une prise de conscience forte à ce niveau-là, au niveau mondial, on peut dire.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que bon, les adeptes du logiciel libre sont quand même des gens très attachés au principe des libertés, mais du code. Et c'est vrai que quelque part, c'est aussi ça que j'aime bien quand on fait effectivement, quand on parle je parle du code de la monnaie. C'est vrai que c'est une approche qui devrait normalement les attirer. Parce qu'effectivement, la monnaie, elle a un code et je pense que s'il essayait d'appliquer les quatre libertés à la monnaie actuelle, il devrait se rendre compte que ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que aujourd'hui, culturellement, dans le monde du logiciel libre, c'est absolument pas. C'est des problématiques qui sont quasiment absentes, quoi.
Ouais, qui sont peu développés. Alors, je vais quand même essayer d'approfondir avec toi cette question. Il y a peut-être une différence, bien sûr, entre la liberté d'une monnaie et celle d'un logiciel, et si celle d'un protocole. Alors moi j'avais une discussion justement avec Richard Talman et qui m'a éveillé tout de suite à cette notion-là. Justement, je lui en avais parlé et il m'avait dit quelque chose, et c'est ça que j'ai retenu et ça m'a paru extrêmement clair et très profondément juste. Il m'avait dit, mais on ne peut pas parler de liberté, par exemple, concernant un protocole de la même façon qu'un logiciel. Parce que le protocole, on ne peut pas le modifier de son propre côté. Si on utilise sur Internet TCP/IP, bon, très bien. Bon, TCP/IP est ouvert, hein, on ne dira pas libre d'ailleurs, on dira ouvert. Parce que tout le monde peut accéder au code de TCP/IP, hein, c'est pas quelque chose d'inconnu, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc c'est le protocole qu'on va expliquer pour celui qui ne connaît pas, l'auditeur, pour celui l'auditeur qui ne connaît pas. C'est un protocole qui va permettre à deux machines de s'échanger des informations avec un processus de validation des données reçues et des données envoyées. Hein, j'envoie un paquet, j'en reçois un et je te dis j'ai bien reçu, j'ai mal reçu. Et alors ce protocole, évidemment, si quelque part sur une machine, un utilisateur dit ben moi je le change, je n'utilise pas la même chose, il va plus pouvoir communiquer avec les autres machines. Voilà. Donc de ce côté-là, on voit bien que le protocole n'est pas libre de la même façon. Donc si on veut dire, nous utilisateurs, nous utilisons TCP/IP, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, version 4. Comment on fait pour dire, on va essayer de modifier ce code? Alors si quelqu'un propose un autre protocole, il peut le mettre en place et petit à petit, des utilisateurs qui l'adopteraient feraient que globalement, le nouveau code va remplacer l'ancien. C'est un peu ce qui s'est fait d'ailleurs avec Internet versus le Minitel en France, puisque au départ il y a le Minitel et petit à petit les gens ont dit mais nous on veut utiliser Internet plutôt, donc TCP/IP, et on va laisser tomber ces vieilles machines centralisées pour utiliser des machines décentralisées. Et ils l'ont choisi parce que c'était mieux. C'est vrai, ça c'est un premier processus. Mais il y a un autre processus à l'œuvre, et y compris dans les télécommunications qui ont eu lieu en France depuis longtemps. On a changé les numéros de téléphone, on a changé tout un tas de choses, on a fait évoluer ça. Et actuellement TCP/IP est en version 4 et on pourrait passer en version 6. Maintenant, si on voudrait que ça se fasse vraiment sur Internet, il faut que tout le monde le fasse, parce que s'il n'y en a qu'un qui le fait, ça ne marche pas non plus. Hein, c'est le même
Ouais,
problème.
mais après on a les problèmes de conversion.
prendre des problèmes. Bon, il y a des problèmes derrière, voilà, bien sûr. Mais alors voilà, on voit bien que là, la liberté existe, mais elle n'est pas de la même nature. Il faut se mettre d'accord. Donc on est sur un processus, on utilise ça, on est d'accord pour continuer à l'utiliser, on aimerait pouvoir changer. On est d'accord, pas d'accord, mais si on est d'accord, on pourrait changer. Donc il y a une notion de liberté qui est plus individuelle, mais plutôt collective, à ce niveau-là. Sinon, il faut redémarrer de zéro et à un endroit et proposer un meilleur code et petit à petit les gens, un meilleur protocole et petit à petit les gens l'adoptent. Ou alors, donc on se met d'accord pour passer à une autre version. Donc, du point de vue de la monnaie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que cette liberté-là est un peu de la même nature. C'est-à-dire que si quelqu'un tout seul dit voilà le code de ma monnaie et moi je suis prêt à l'utiliser avec vous, mais qu'il est tout seul à le dire et que personne n'y va, évidemment ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la possibilité de changer la monnaie, là aussi, ben, présuppose à minima un accord collectif, ce qui n'est pas la même nature de liberté qu'un logiciel.
Non, c'est sûr que là, on est sur quelque chose qui est un peu plus délicat et puis surtout qui effectivement demande un effort collectif. Et le problème, c'est effectivement d'arriver à ce que cet effort collectif il atteigne une masse critique pour que à un moment donné tout le monde bascule le basculement se fasse quoi. Et c'est vrai que sur la aujourd'hui par rapport au logiciel libre, si les gens du logiciel libre voulaient s'unir entre guillemets pour essayer de mettre en place un nouveau protocole, entre guillemets, donc une nouvelle monnaie. Bon, on pourrait imaginer pourquoi pas hein, une monnaie qui servirait déjà dans la base d'échange entre communautés de logiciels libres ou des choses comme ça, hein, quand elles s'échangeraient des services ou autre. Bon, le problème, c'est qu'on a encore beaucoup à faire dans le monde du logiciel libre, à des problématiques de tribus, hein, où chacun a le droit de faire entre guillemets ce qu'il veut. Bon, si on n'est pas content, ben on n'a qu'à aller écrire le logiciel, un autre logiciel dans son coin, etc. Il y a quand même, pour moi, dans les obstacles à franchir côté logiciel libre, côté il y a quand même cet aspect un peu, je dirais, indépendance forcenée du développeur qui, de toute façon, voilà, dira, bah, si moi ça me convient pas, bah, c'est pas grave, t'as qu'à aller refaire ton truc de ton côté, quoi, en gros. Hein.
Oui, c'est ce
Donc,
qu'on
c'est vrai que
appelle.
le problème après, effectivement, de convaincre ces gens que bah, il faut qu'on se mette d'accord, effectivement, sur une nouvelle monnaie, sur sa définition, et puis qu'on mette en place des modalités pour commencer à l'appliquer, pour qu'effectivement, on puisse avoir, à un moment donné, un basculement. Sinon, il se fera jamais, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Oui, c'est clair, voilà, donc on est exactement dans ce qu'on vient de dire. Donc cette liberté d'ordre collectif présuppose effectivement un minimum de personnes au départ, au moins, qui soient d'accord pour aller dans la mise en place d'un code sur lequel ils ont réfléchi et ils ont dit oui, on y va, quoi. Tu parlais tout à l'heure de fait de quitter, peut-être on va pouvoir finir par ça, mais c'est un point qu'on peut creuser, qui est important. La possibilité de quitter évidemment un système, enfin une communauté de logiciels libres quand on n'est pas content, effectivement on peut aller faire dans son coin. Quand on dit faire dans son coin, vu que c'est un logiciel libre, on peut prendre tout le code et partir avec pour dire je vais faire une nouvelle version. C'est typique ce qui se passe sur GNU Linux. Beaucoup de communautés ont développé leur propre version. Alors il y a Debian, il y a Arch Linux, voilà, il y en a tout un tas.
Il y en a un paquet,
Il y en a beaucoup, et
ouais.
Fedora, bon bref, je ne vais pas les citer toutes, d'abord je ne les connais pas, je ne les connais pas toutes. Mais ça s'appelle un fork, on va le dire juste quand même, parce que tu ne l'as pas dit.
Ouais, c'est
Alors ça
ça.
s'appelle un fork, pour ceux qui ne connaissent pas, le fork, c'est ça, une communauté qui développe un logiciel, n'importe lequel, GIMP, très bien, bon ben demain, quelqu'un qui veut faire une version à lui de GIMP parce que celle qui existe ne lui convient pas et que le développeur ne veut pas aller dans la direction qu'on lui demande. Il prend le code et il va créer une nouvelle version ailleurs. Bon, alors, par contre, il faut
C'est
juste qu'il.
exactement ce qui s'est passé avec OpenOffice et
Ouais,
LibreOffice,
ah oui,
puisque
voilà,
LibreOffice,
exact. Ouais.
c'est un fork, c'est une nouvelle version, entre guillemets, enfin, c'est un développement maintenant complètement dissocié et
Ouais.
quasiment maintenant sans point commun d'OpenOffice. Hein. Il y a eu, voilà. Mais ça, effectivement, parce qu'OpenOffice a été porté par une entreprise.
Au départ,
en
et les
open,
logis, voilà, et là ce
au
sont,
départ, et
ouais.
c'est d'ailleurs, enfin, c'est là qu'on voit bien que le système monétaire, on va dire, dans l'entreprise s'inclut dans le système monétaire existant et qu'elle porte un logiciel libre, ça se finit quand même assez souvent mal.
Ouais.
Et on l'a vu avec OpenOffice, on l'a vu avec,
Ouais.
avec vraiment c'est le cas typique, hein, et c'est en train de se passer avec la base de données MySQL.
Ah oui, là aussi, il y a un fork en cours.
Ça fait déjà pas mal de temps qu'il y en a eu, hein, il s'appelle MariaDB.
Ouais.
MySQL appartenait à Sun, comme OpenOffice, qui a été racheté par Oracle. Hein. Oracle a racheté, entre guillemets, LibreOffice, enfin OpenOffice et MySQL.
Mais
Et
surtout,
dans
en
les
fait,
deux cas,
il a acheté la marque parce que pas le code.
Ah bah c'est la marque. Hein. Ah bah
Ouais.
le code, bah il est. Oui, non, on n'achète jamais vraiment le code. Hein. C'est bon, il
Voilà.
y a la marque OpenOffice, effectivement. Bon après c'était eux qui géraient le. Parce que quand même, quand on parle de code, c'est pas n'importe qui peut faire des modifs. Hein. Il y a des droits d'accès. Hein. Donc c'était quand même aussi acheter le droit d'accès de faire les modifs dans le code d'OpenOffice. Hein.
Ouais.
Donc voilà, donc ce qui a provoqué le fork et la création effectivement de LibreOffice. Bon, qui est un logiciel cette fois plus communautaire, donc normalement la pérennité devrait être mieux, meilleure, mais qui se retrouve quand même confronté à la problématique. Hein. Il suffit d'aller sur leur site, on va trouver effectivement la page de don.
Ouais.
Maintenant, combien de temps ça va tenir?
Dans un système monétaire qui, lui, n'est pas libre.
Voilà. Et
D'accord.
voilà, on reboucle toujours la boucle.
Alors.
Donc effectivement, il faudrait arriver à initier. À initier un changement pour commencer à avoir une transition vers un autre modèle parce que malheureusement dans l'état actuel des choses si ça continue je ne sais pas ce qui va arriver au logiciel libre quoi.
Ouais, mais il n'y a pas que le chez Libre qui a des problèmes aujourd'hui dans
Oui, ben
l'économie.
voilà, non mais
Hein,
c'est
c'est.
un exemple.
Ouais.
Et il y en a d'autres.
Tu as donné l'exemple, je vais donner un autre exemple que j'ai connu moi à l'envers. C'était Joomla au départ, qui s'appelait Mambo, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et qui en fait au départ était libre et puis s'est fait. Et je crois que c'est fait approprier par une entreprise qui a voulu en faire un truc un peu moins libre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors du coup, ils ont changé le nom pour l'appeler Joomla pour la partie libre. Donc il y a eu un fork comme ça. C'est parti dans deux directions à ce niveau-là. Donc mais c'était pas au départ la propriété d'une entreprise en fait.
Ça après c'est effectivement ça c'est un autre mais là c'est un autre problème on sort du problème de la monnaie qui est de la transformation de projet communautaire en projet entrepreneurial où là bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque part une privatisation un petit peu d'un travail collectif donc là aussi c'est dans ce sens-là aussi où on va avoir des forks enfin des divergences où les communautés vont partir d'un côté et puis celui qui a voulu créer l'entreprise va créer son entreprise de l'autre côté mais
Mais par contre,
qu'est-ce qui va en sortir?
la justice quant à la participation réelle des uns et des autres au projet n'est pas établie au sens de ils n'ont pas reçu disons la moindre compensation pour cette opération qui. Ouais. Alors, on va creuser cet aspect-là parce que on a donné des exemples. Et moi, ce qui m'intéressait là, et parce que ça rejoint le problème de la monnaie, c'est le problème de la gouvernance. Moi, j'ai entendu parler. Tu vas me dire ce que tu en sais. Je sais pas dans le détail, mais que concernant toujours GNU Linux, c'est plus ou moins Linus Torvald qui continue de dire ça, on prend, ça, on prend pas pour Linux.
Oui, Linux, alors le Linux c'est le noyau. Effectivement, là, on a une Linux, c'est une gouvernance de type dictateur éclairé. Et c'est comme ça dans quand même la grande majorité des projets dits communautaires, où on a un fonctionnement qui est méritocratique, ni plus ni moins, où voilà, je veux développer, je veux devenir contributeur Debian. C'est pas n'importe qui va avoir le droit de le faire. Il va falloir qu'il se présente, qu'il se fasse parrainer, il y a un vote, etc. Après, ça n'empêche pas que le fonctionnement de la communauté reste quand même très démocratique. Hein. Ils élisent tous les ans le leader du projet, etc. Mais malgré tout, il y a une notion de validation par des pairs. On ne rentre pas comme ça. Et effectivement, Linux, c'est un système très pyramidal. Presque en termes de fonctionnement, avec effectivement Linus Torvald tout en haut, qui alors qu'il ne veut pas tout faire, bah, il s'est choisi des lieutenants, hein, et il a délégué la gestion de certaines parties de Linux à ses lieutenants, et c'est ces lieutenants eux aussi qui vont décider si tel modif rentre ou pas dans le code de Linux. Hein.
D'accord. Alors, est-ce que par rapport à ça, évidemment, on est typiquement dans quel type de fonctionnement serait bon pour une communauté quelconque, à la limite pas forcément que du logiciel libre, mais et pourquoi pas le logiciel aussi. Alors bien sûr, on voit bien qu'il ben, déjà il vaut mieux connaître l'informatique hein, pour coder.
Ouais, mais c'est ça qui est un peu dommage, parce que je pense qu'au niveau du logiciel libre ou autre,
Ouais.
La contribution, s'il y a le code, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça.
Y a
Après, je
pas que
pense
ça.
que les utilisateurs qui ne savent pas programmer, alors effectivement, qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? On va leur dire, bah, vous pouvez faire de la doc, vous pouvez aider les gens sur les forums, etc. L'utilisateur, il va être un petit peu repoussé sur des fonctions, je dirais, périphériques. Par contre, il va pas forcément être impliqué dans le développement du logiciel puisqu'il ne sait pas coder.
Il sait
Et
pas. Ouais.
c'est là où on retrouve un peu une dichotomie développeur-utilisateur parfois dans les projets libres, où les évolutions du logiciel, elles sont quelque part validées par les développeurs. Alors, les utilisateurs peuvent faire des suggestions, mais comme le développeur peut, entre guillemets, faire ce qu'il veut, puisque de toute façon, si on est dans une communauté, il y a une notion de bénévolat, donc il a, entre guillemets, il n'est pas payé pour, donc il n'a pas de compte à rendre, hein, il fait entre guillemets ce qu'il veut. Donc ça induit aussi quelque part un fonctionnement où bah, les utilisateurs vont peut-être se retirer de la chose en disant bah, moi je sais pas coder, donc je vais pas contribuer, je vais pas participer, ce qui est une erreur. Donc c'est vrai que en termes de fonctionnement aujourd'hui, ça serait bien d'aller vers un peu plus d'ouverture, en tout cas au niveau des communautés, ne serait-ce que pour ramener effectivement dans ces communautés des gens qui peuvent avoir effectivement des idées, des propositions. Et peut-être que parmi ces gens-là, ce sont des gens qui peuvent s'intéresser aux problématiques de Monet et justement arriver avec des propositions un peu différentes pour ouvrir, je dirais, l'esprit. Au noyau qui maintient le logiciel, entre guillemets, au noyau de développeur qui maintient le logiciel.
Oui, voilà, alors c'est ça, c'est
Mais
ce
c'est un
peu.
peu un problème de diversité, quoi.
Ouais.
Quand on parlait tout à l'heure, on se demandait mais pourquoi, mais pourquoi?
Ouais.
Bah, c'est peut-être aussi parce que voilà, les gens qui pourraient amener ce genre d'idées aujourd'hui sont peut-être pas forcément acceptés ou reçus ou écoutés.
Ouais. Et alors, quand tu disais ce surplus d'ouverture, ça nous pose la question, finalement, là aussi, et on en revient toujours au code. Quel code démocratique pour une communauté qui voudrait justement ne pas s'enfermer dans, comme tu disais, le dictateur éclairé comme mode de gouvernance, ou alors la méritocratie basée sur la seule compétence technique, alors que la compétence technique, ce n'est pas forcément la compétence d'utilisation. On sait bien, nous, on a fait du logiciel, qu'un logiciel qui fait que techniquement bien, mais qui ne répond pas vraiment aux utilisateurs, ce n'est pas idéal non plus.
Voilà.
Après, si les utilisateurs demandent n'importe quoi parce que techniquement c'est trop cher à développer, il ne faut pas le faire non plus. Enfin, il y
Voilà,
a
on est
juste un
d'accord, il
milieu,
y a un arbitrage.
il y a un arbitrage à trouver. Alors, et ça va dépendre, ce bon fonctionnement dépendra sans doute aussi du mode de gouvernance qu'on a choisi. Alors, est-ce que tu as réfléchi à ça de ton côté aussi? Est-ce que tu vois pas finalement l'organisation d'une démocratie comme étant elle aussi un code? Est-ce que tu as écouté les propos d'Étienne Chouard, par exemple, qui, lui, selon lui, c'est la Constitution qui constitue le code, et que la Constitution ne devrait pas être notamment entre les mains, justement, des élus qui sont censés faire fonctionner la démocratie? On est typiquement un peu dans la même idée. C'est-à-dire, si on considère les
Ben, on est
élus,
dans la même idée, hein. C'est ceux
voilà.
qui font le logiciel qui décident comment il doit être. Donc effectivement,
Ouais.
quelque part, on est bien sur
On est sur une boucle.
une boucle.
Ouais. Ouais.
Voilà, donc c'est pour ça que effectivement, en termes de fonctionnement, moi je suis plus favorable à des systèmes où effectivement, déjà quelque part, on va partir de la demande de l'utilisateur. Parce que déjà, il est beaucoup plus nombreux. Donc déjà, ça, on peut potentiellement s'appuyer sur un nombre de gens bien plus élevé pour porter le projet. Hein, et puis, si l'utilisateur est impliqué, ben, il aura d'autant plus envie de diffuser ce dans quoi il est impliqué. Alors qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à le repousser. Donc forcément, ben, il va pas se servir de ce qu'on lui donne. Donc l'idée est plus effectivement plutôt d'avoir une offre, d'avoir une demande. Donc après, en termes de gouvernance, effectivement, ça veut dire qu'on revient sur des systèmes bah, peut-être un peu plus, entre guillemets, ouverts, démocratiques, où une voix égale une voix. Et effectivement, ça casserait un petit peu aussi le modèle de la méritocratie, ou alors les critères de la méritocratie ne seraient plus uniquement la capacité de coder.
Ouais, qui est pas forcément la seule, le seul mérite existant, quoi. Mais sûr, la capacité de bien utiliser un logiciel, ça existe aussi. On n'est pas,
Voilà.
il va y avoir de grands graphistes, par exemple. Un graphiste, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est pas forcément un codeur. Et pourtant, on a bien besoin que son logiciel de graphisme soit utilisé par des bons graphistes.
Voilà. Donc,
C'est cool.
effectivement, à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, on devrait se diriger en termes de gouvernance dans tout ce système sur des choses qui soient quand même plus ouvertes, plus démocratiques et un peu moins fermées sur uniquement le code, quoi.
Et qu'est-ce que tu penses de ce principe qui ferait que le code de gouvernance d'une communauté, du code de gouvernance démocratique, soit contrôlé par une assemblée tirée au sort? Tu as réfléchi à ça?
Ah, bah, le tirage au sort, ouais, ça serait un bon moyen pour casser effectivement les arrangements entre petits amis.
Pour casser la boucle?
Bah, voilà. Donc, oui, non, effectivement, c'est une dose de démocratie avec une dose de tirage au sort, ça éliminerait effectivement pas mal de soucis, hein, c'est clair, hein. Et donc, effectivement, la revue du code de fonctionnement par des gens tiré au sort, ben voilà, on pourrait avoir un système effectivement un petit peu plus assainie, oui.
Ouais, un peu plus équilibré entre utilisateurs, développeurs et donc peut-être avoir un logiciel encore meilleur quoi finalement.
Ouais. Non, c'est pour ça qu'il faudrait qu'effectivement, au sein des projets libres, il y ait vraiment des collèges, quelque part, hein, le collège des utilisateurs, le collège des développeurs, le collège de je sais pas quoi, et que tous, enfin, mais que tous aient une voix au chapitre, entre guillemets, avec un code, effectivement, de gouvernance qui soit décrit, qui soit voté quelque part, hein, avec effectivement une dose de tirage au sort qui éviterait que ce soit que les utilisateurs qui contrôlent ou que les développeurs.
Ouais, d'accord. Bon, mais très bien, je crois qu'on est arrivé au bout de cette émission. On a bien vu tous ces aspects. Merci Philippe, hein. Je crois
Ben de rien, je vous remercie.
on a vraiment fait le tour, on a bien creusé, on a vu, on a perçu, on a approfondi aussi notre connaissance grâce à toi du fonctionnement du logiciel libre, non seulement au niveau technique, au niveau de la gouvernance, mais on a parlé bien sûr surtout de l'économie et aussi de la monnaie. On a fait ce lien avec la monnaie et le problème du code de la monnaie se pose. Et devrait être posé, d'autant plus par tous ceux qui veulent avoir des codes véritablement libres, ou que ce soit. Il faut rappeler quand même que Richard Stallman a créé des quatre libertés aussi pour une imprimante. Hein, voilà. C'est pas forcément pour. C'était pas pour. L'imprimante, c'est pas en soi du code.
Non, non, non. Non, et voilà, il faudrait l'ouvrir, faut ouvrir le code de partout.
Voilà. Donc,
Je
merci Philippe pour cette émission qui arrive à son
t'en
terme.
prie.
Voilà, je vais vous laisser pour la prochaine fois. On se retrouve dans une prochaine émission de Monnaie Libre et je vous laisse bien sûr avec notre générique fétiche No More Dreams. À bientôt.